Opacité des obligations versus transparence des actions. Vous avez peut-être remarqué qu'en expliquant le fonctionnement des plateformes d'échange, je n'ai pas mentionné les obligations. Cela est dû au fait que les modes de transaction se divisent grosso modo en deux grands blocs. Si les transactions impliquant des actions s'effectuent en grande majorité sur des plateformes d'échange diverses, via des petites annonces, les échanges impliquant des obligations passent presque toujours par les market makers des banques d'investissement. Pourquoi? Essentiellement pour des raisons techniques. En effet, les échanges d'obligations sont plus difficiles à automatiser via un système de petites annonces, principalement parce que la liste d'informations nécessaires à la description d'une obligation est beaucoup plus longue et complexe que pour une action. Cela nous amène à faire la différence entre les échanges dits listés ou listed et ceux dits de gré à gré ou OTC pour over the counter. Les premiers sont effectués via une plateforme d'échange qui maintient l'anonymat des acheteurs et des vendeurs, mais qui rend public instantanément, parfois il faut quand même payer un abonnement, toutes les petites annonces encore valides, tous les prix et toutes les quantités échangées, ce qui permet à l'ensemble des financiers d'être au fait de l'état de l'offre et de la demande. Les seconds passent par les market makers, des banques d'investissement. Les échanges se font un à un, par téléphone, par email ou par chat. Les transactions sont enregistrées manuellement, ce qui provoque de nombreuses erreurs, par des stagiaires. Sans une liste de petites annonces que chacun peut consulter, il est difficile de connaître l'état de l'offre et de la demande, ce qui rend le marché plus opaque. De plus, s'il existe maintenant des réglementations, TRACE aux États-Unis depuis 2002 et MiFID 2 en Europe depuis 2018, qui obligent les market makers à publier l'ensemble de leurs échanges, l'information n'est connue que le lendemain. Peut toujours rester quelques erreurs dans les données publiées et le niveau de détail est faible par rapport à ce que peut fournir une plateforme d'échange. Ainsi, les échanges réalisés de gré à gré, OTC, sont plus opaques que ceux réalisés sur les plateformes d'échange, listed. Parce que le gros des échanges obligataires passe par ce marché de gré à gré, l'information sur l'état de l'offre et de la demande, ou de l'exposition de tel ou tel acteur, est moins facile à obtenir que dans le cas des actions. Les indices boursiers, les thermomètres de la finance. Mais au fait, qu'est-ce que le CAC 40? Nous n'avons toujours pas parlé des indices boursiers. Mettez-vous dans la peau d'un gérant de fonds d'investissement qui aimerait savoir, en un seul coup d'œil, si, globalement, le prix des produits financiers augmente ou diminue. Comment faire alors qu'il y a des milliers d'actions et d'obligations différentes? La réponse est simple. On fait la somme, ou la moyenne, des valeurs des actions ou des obligations qui nous intéressent, et on regarde comment celles-ci évoluent. Voilà ce qu'est un indice. Le mythique CAC 40. Le CAC 40 n'est rien d'autre que la somme des valeurs des actions de 40 des plus grosses entreprises françaises cotées en bourse, pondérées par leur valeur. Ici, la valeur boursière signifie le prix d'échange d'une action multiplié par le nombre d'actions existantes. Cela signifie que l'évolution de l'action LVMH, dont la valeur boursière est en 2020, au moment où je travaille cet ouvrage, de 211 milliards d'euros, contribue deux fois plus au mouvement du CAC 40 que celle de l'action Airbus, dont la valeur boursière n'est que de 104 milliards d'euros, une paille. Et les autres indices? Il existe des quantités d'indices boursiers différents qui regroupent les valeurs d'actions ou d'obligations différentes. Pour ces dernières, les indices les regroupent en général par notation. En effet, même s'il existe de nombreuses manières de les classer, on distingue généralement les obligations dites « investment grade », dont la notation par les agences Standard & Poor's et Moody's démarre à triple B, et les obligations dites « high yield », dont la notation est inférieure. Banque centrale et taux d'intérêt, influence et régulation. Quel est le rôle de la Banque centrale et des taux d'intérêt sur les marchés financiers? Pour les économistes, l'une des variables les plus importantes de la machine économique est la valeur de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt d'un emprunt. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus les emprunteurs doivent avoir en tête des projets rentables pour être capables de le payer. Inversement, plus le taux est bas, moins les projets financés ont besoin d'être rentables. On considère ainsi généralement qu'un taux d'intérêt bas tend à accélérer la croissance, plus de projets financés, tandis qu'un taux d'intérêt haut a plutôt tendance à la ralentir, moins de projets financés. On pourrait donc se demander ce qui fait varier le taux d'intérêt. N'aurait-on pas avantage à le maintenir le plus bas possible afin qu'un grand nombre de projets soient financés en permanence? Le taux directeur, et revoilà les banques centrales. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il existe une multitude de taux d'intérêt. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la partie sur les obligations, le taux d'intérêt dépend en partie du risque de non-remboursement de l'emprunteur. Plus le risque est élevé, plus le prêteur demande un taux d'intérêt important. Cette réalité que nous avons appris à ne pas questionner n'est pas aussi sensée qu'il y paraît. En effet, les emprunteurs les plus risqués sont aussi les emprunteurs les plus précaires, particuliers au chômage, entreprises en perte de vitesse, gouvernements se débattant avec une crise économique. Or, faire peser le poids d'intérêts élevés sur des emprunteurs déjà fragiles ne risque-t-il pas de provoquer leur perte? Si c'est le cas, alors le prêteur ne s'y retrouve pas forcément, puisque le défaut de paiement correspond à un remboursement partiel, voire peut-être à un non-remboursement. La logique financière qui associe risque avec retour sur investissement, plus le risque est élevé, plus l'opportunité de retour sur investissement doit l'être également, n'est pas dénuée de sens, mais elle n'est pas non plus dénuée de contradictions. Quoi qu'il en soit, on estime malgré tout que le taux d'intérêt doit être fixé en fonction de la perception du risque de non-remboursement. Or, nous avons vu que les banques de dépôt qui créent la monnaie sont parfois obligées de s'endetter auprès de la banque centrale. Pour rappel, quand vos promesses circulent d'une banque à l'autre, les banques de dépôt sont contraintes d'emprunter à la banque centrale un montant équivalent à l'excédent de promesses sortant de leur serveur. Rappelez-vous, la monnaie centrale est nécessaire pour régler les échanges entre les banques de dépôt. Ainsi, le taux d'intérêt associé aux promesses centrales empruntées afin de permettre la circulation de la monnaie scripturale représente un coût que les banques de dépôt reportent dans les taux qu'elles proposent aux agents économiques, particuliers, entreprises et États. Cela signifie que le taux d'intérêt demandé par la banque centrale aux banques de dépôt a un impact, bien qu'indirect, sur le taux qu'une banque de dépôt acceptera de proposer. Et comme tous les agents économiques, y compris ceux qui s'activent sur les marchés financiers, passent par des emprunts bancaires à un moment donné ou à un autre pour financer leurs activités, tous les agents économiques considèrent le taux fixé par la banque centrale comme un coût qu'il faut reporter dans les crédits. Voilà pourquoi le taux demandé par la banque centrale aux banques de dépôt porte le nom de taux directeur. Il sert de référence minimale. Aucune banque et aucun agent économique n'acceptera de prêter à qui que ce soit à un taux inférieur au taux directeur fixé par la banque centrale. Cette phrase est évidemment fausse. Comme à chaque fois, il existe des exceptions, mais nous y reviendrons. La question devient donc, la banque centrale n'a-t-elle pas intérêt à fixer un taux directeur le plus bas possible, afin de permettre le financement d'un maximum de projets? Taux directeur et activité économique, quand l'économie tient à une théorie non démontrée. Pourquoi une banque centrale chercherait-elle à ralentir l'activité économique via la hausse de son taux directeur? Pourquoi ne pas laisser la croissance économique tourner à plein régime? L'inflation, encore victime du délit de sale gueule. C'est une histoire théorique dont l'acteur principal est l'inflation. Vous rappelez-vous de la période de stagflation des années 1970, que l'on peut expliquer par les deux chocs pétroliers et par la situation de plein emploi. Sous l'influence de Milton Friedman notamment, ce qui a été retenu de cette période, c'est que la santé de l'économie se lie dans les variations de l'inflation. Variations que, si vous vous souvenez de la partie sur le PIB, on calcule très mal. Un indicateur précis donc. Théoriquement, quand l'inflation accélère, le taux d'inflation est de plus en plus élevé chaque année, même si le taux de croissance économique tend à accélérer également, il s'agit d'une croissance de court terme qui nous emmène droit vers un ralentissement économique, comme dans les années 70. Dans cette lecture, il vaudrait donc mieux limiter l'inflation et donc la croissance du PIB sur le court terme, afin de préserver la croissance économique sur le long terme. Nous l'avons dit, la déflation, la baisse du niveau général des prix, est une cousine beaucoup plus dangereuse que l'inflation. Ainsi, s'il faut à tout prix éviter la déflation, l'inflation, elle, reste tolérable dans une certaine limite. Une limite que les banques centrales fixent autour de 2% par an et qu'elles passent leur temps à surveiller de très près. Si jamais l'inflation passe au-dessus de cette limite de 2%, les banques centrales craignent de rentrer dans une phase d'accélération de la croissance économique qui serait néfaste pour la croissance de long terme. Donc, elles augmentent leur taux directeur pour ralentir l'activité économique et par là même l'inflation. En revanche, lorsque c'est l'inverse qui se passe, un taux d'inflation inférieur à 2%, les banques centrales diminuent leur taux directeur pour stimuler l'activité économique et faire augmenter l'inflation. Toute la théorie repose sur l'idée qu'une économie en croissance stable sur le long terme doit tourner avec des prix qui augmentent à une vitesse de croisière de 2% par an. Or, cette théorie n'est fondée sur pas grand-chose de tangible. On démine la théorie de l'inflation. Premièrement, l'idée selon laquelle le mouvement du taux directeur est corrélé de manière positive avec l'activité économique ne résiste pas à l'analyse. Sur 19 pays testés, États-Unis, France, Allemagne, Canada, Italie, Espagne, bref, les pays riches quoi, pour la période allant de 1955 à nos jours, la hausse du taux directeur ne correspond jamais à un ralentissement de la croissance économique et une baisse n'est que très rarement corrélée à une accélération du taux de croissance. En réalité, seules les périodes de crise économique, parce que les banques centrales ont le réflexe immédiat de baisser leur taux directeur quand la crise pointe, montrent une corrélation positive entre taux bas et reprise économique. Deuxièmement, les tests de causalité permettant de déterminer si ce sont bien les mouvements de taux qui ont un impact sur l'activité économique, à la hausse ou à la baisse, sont également négatifs. Les banquiers centraux réagissent aux ralentissements et aux accélérations, mais ils ne les provoquent pas. Ce n'est pas parce que le taux directeur baisse que l'activité économique décolle. C'est parce que l'activité économique ralentit que les banquiers centraux baissent les taux. Il semble donc bien que la croissance économique fait à peu près ce qu'elle veut sans se soucier de ce que fait le taux directeur. De plus, la théorie utilisée par les banques centrales a volé en éclats en 2008 lors de la crise des subprimes. Les mesures de quantitative easing, injection monétaire par les banques centrales directement sur les marchés financiers, donc dans le circuit du carburant plutôt que dans celui de l'huile de moteur, ne font pas partie de l'orthodoxie. C'est bien parce que l'abaissement du taux directeur ne changeait pas grand-chose que les banques centrales ont essayé d'autres mesures. Le quantitative easing, l'institutionnalisation de la spéculation. Arrêtons-nous quelques instants sur ce terme barbare. Nous avons déjà expliqué que la banque centrale, en plus de son pouvoir de fixation du taux directeur, peut injecter de la monnaie dans l'économie de deux manières. Soit elle achète quelque chose en créant de la monnaie, soit elle prête de la monnaie créée en échange d'un contrat de prêt. Selon le bénéficiaire de cette action, la création de monnaie n'a pas la même fonction. Quand l'une ou l'autre de ces méthodes est orientée vers les banques de dépôt, la monnaie créée agit comme de l'huile de moteur. Quand elle est orientée vers n'importe quel autre acteur, particulier, entreprise non bancaire ou État, la monnaie agit comme du carburant permettant un véritable pouvoir d'achat. Lorsque les banques centrales décident de faire du quantitative easing, QE, elles se mettent à orienter leurs injections monétaires vers le circuit de carburant plutôt que vers celui de l'huile de moteur. Les banques centrales se limitent en général à l'achat de produits financiers d'occasion. Elles achètent majoritairement des obligations d'État sur le marché secondaire, ce qui revient à ajouter du carburant dans les tirelires que sont les fonds d'investissement et à diminuer le coût de la dette des États. En effet, les achats de la banque centrale font grimper le prix des obligations, ce qui réduit artificiellement le risque de non-remboursement et permet aux États d'émettre de nouvelles obligations avec des coupons plus faibles, voire carrément négatifs. Les coupons ne sont pas réellement négatifs, ce sont les rendements qui le sont. Nous en parlerons un peu plus tard. Le problème majeur du QE réside ailleurs. En pleine crise de la demande, ajouter de la monnaie dans les tirelires des marchés financiers ne provoque rien de plus que la hausse des prix des produits qui y sont échangés. En effet, les gérants des fonds aimeraient bien réorienter leur monnaie vers l'économie réelle. Or, comme les États sont soumis à l'austérité budgétaire et comme les entreprises, constatant que la consommation stagne, n'ont aucune raison d'investir, la monnaie du QE sert simplement à courir après une quantité trop faible de produits financiers, ce qui contribue à faire grimper leurs prix. Ainsi, sans une relance de la demande, le QE contribue simplement à créer des bulles spéculatives. Alors pourquoi financer des bulles spéculatives plutôt que l'économie réelle? Les raisons sont multiples. Les banques centrales, qui sont indépendantes, se voient comme des stabilisateurs économiques, mais pas comme des investisseurs. Selon elles, seules les banques de dépôt et les fonds d'investissement ont pour rôle de choisir ceux qui méritent d'obtenir un financement. Ainsi, les banques centrales cherchent à aider les banques de dépôt, injection d'huile de moteur, et les fonds d'investissement, injection de carburant, à faire leur boulot, mais elles n'ont pas pour vocation de le faire à leur place. Même si la grande majorité des entreprises qui forment le tissu économique mondial ne sont pas cotées et n'émettent pas d'obligations sur les marchés financiers, les banques d'investissement savent que la stabilité, voire la hausse des prix sur les marchés, est une condition nécessaire à la croissance du PIB. Autrement dit, quand les marchés s'enrhument, même s'il n'y a pas de raison que nous soyons contaminés, nous nous mettons tous à agir comme si nous étions enrhumés aussi. Nous ralentissons nos dépenses, ce qui provoque la crise. Mettez-vous à la place du directeur d'une banque centrale, responsable d'un programme de QE qui a provoqué une bulle. Soit vous coupez les injections de monnaie, la bulle éclate et c'est la crise économique assurée. Vous en serez évidemment tenu pour responsable. Soit vous maintenez les injections monétaires et vous jouez la montre jusqu'à ce que le prochain directeur prenne votre place, ou que les entreprises ou les gouvernements se décident enfin à jouer la carte des investissements dans l'économie réelle. Mais vous risquez votre tête. Non seulement les règles qui encadrent le fonctionnement de votre banque centrale ne permettent très probablement pas l'investissement en direct, il va falloir contourner les règles, mais en plus vous n'avez aucune légitimité politique puisque vous n'avez pas été élu et que la monnaie que vous manipulez n'est pas la vôtre. Bref, encore des contraintes idéologiques, politiques, carriéristes, etc. L'étonnant principe de la monnaie hélicoptère. Il existe une autre forme d'injection monétaire que les banques centrales pourraient adopter, la monnaie hélicoptère. Plutôt que de prêter ou d'acheter, les banques centrales pourraient faire des dons. Certains économistes proposent ainsi que les banques centrales utilisent leur planche à billets pour créditer les comptes des particuliers, des entreprises ou des États. Cela permettrait de relancer la demande sans pour autant faire peser le poids d'une dette à rembourser. L'idée n'est pas neuve, mais les banquiers centraux s'y opposent pour de nombreuses raisons plus ou moins valides. La principale étant que la monnaie créée puis donnée doit nécessairement rester dans l'économie. On peut revendre ce qui a été acheté ou se faire rembourser ce qui a été prêté, destruction monétaire, mais on ne peut pas reprendre ce qui a été donné. Cet argument est de plus en plus contesté, car non seulement ce sont les banques de dépôt qui contrôlent la grande majorité de la masse monétaire, mais en plus, les banques centrales ne retirent que des montants relativement faibles de la monnaie qu'elles injectent. Du don dans l'économie, ça fait rêver un peu, non? Quand le taux d'intérêt perd de son intérêt. Revenons-en au taux d'intérêt. Pourquoi la variation du taux directeur n'impacte pas réellement l'activité économique? Tout simplement parce que l'économie est une machine complexe qui réagit en fonction de nombreuses variables. Les économistes se focalisent sur les taux d'intérêt dans leurs modèles car ils font des hypothèses simplificatrices. Les agents économiques sont supposés comprendre parfaitement le fonctionnement de la machine économique, disposer de toutes les informations disponibles, être capable de toutes les analyser sans faire d'erreur d'interprétation, de manière instantanée et sans aucun coût financier. Les agents sont également supposés regarder au-delà des prix pour s'intéresser aux richesses réellement créées, ce qui interdit les phénomènes spéculatifs. Si un tel monde existait, le prix de la monnaie deviendrait peut-être l'unique variable digne d'intérêt. En attendant, dans le monde réel, l'importance du taux d'intérêt se mêle avec celle de la quantité de monnaie disponible, celle de sa répartition, inégalité, et de son utilisation, marché du neuf ou marché de l'occasion, celle de la confiance des agents en l'avenir, celle des problématiques environnementales, énergétiques et de ressources. Bref, le taux d'intérêt est loin de faire partie des variables les plus décisives. La grande affaire des taux dits négatifs. Vous avez sûrement entendu dire que certains États empruntent à des taux négatifs. Il s'agit d'un abus de langage. Ce ne sont pas les taux qui sont négatifs, mais les rendements. Ok, c'est encore faux, il y a des exceptions, je simplifie, je vous dis. La différence est subtile, mais mérite d'être comprise. Ne pas confondre rendement et taux négatif. En août 2019, le gouvernement français pouvait émettre des obligations à 10 ans avec un rendement, et non un coupon, de moins 0,3% et le gouvernement allemand de moins 0,65%. Qu'est-ce que cela signifie? Sans rentrer dans le détail, cela veut dire que les gouvernements français et allemands peuvent emprunter plus de monnaie que ce qu'ils rembourseront et paieront en intérêts. Par exemple, si je vous prête 100 euros pour une année à un taux, coupon, de 1%, mais que je n'exige qu'un remboursement de 98,50 euros, alors le rendement de mon investissement est négatif. En effet, je débourse 100 euros, le prêt, mais je ne récupère que 1 euro, les intérêts, et 98,50 euros, le remboursement, soit un rendement de 98,50 euros plus 1 euro moins 100 euros divisé par 100 euros égale moins 0,5%. Et pourquoi pas un coupon négatif? Parce que cela implique que c'est le prêteur qui paie des intérêts à l'emprunteur. Sur un marché aussi complexe que celui des obligations, il existe des entreprises, les chambres de compensation, dont l'un des rôles consiste à collecter le paiement des emprunteurs pour transférer les fonds sur les comptes des prêteurs. Cela dit, la situation inverse demanderait une logistique très différente, puisqu'il faudrait vérifier la capacité de paiement de chaque prêteur avant de les laisser prêter. Or, cela est impossible avec les infrastructures actuellement en place. Ainsi, même s'il existe des cas particuliers, les obligations à coupon négatif sont évitées.